Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Ce corps n'était pas le mien, plus qu'un livre, c'est l'histoire de Bruno. Bruno devenu Béatrice Denès, qui signe donc ce livre qui sortira demain chez First Edition et qui est notre invité ce soir. Bonsoir Béatrice Denès, bienvenue à vous dans RTL Soir.
Ben bonsoir Thomas, merci de m'avoir invité.
Quand on lit votre livre, on comprend que vous êtes Béatrice depuis votre plus tendre enfance, que vous l'avez toujours été en fait, que Bruno est en quelque sorte une erreur d'étiquetage. Comment vous avez fait pour vivre dans l'enveloppe d'un autre pendant tant d'années ?
Honnêtement, ça n'a pas été vraiment très facile, mais le fait, vu l'âge que j'ai maintenant, donc j'ai quand même 64 ans, et en effet, je m'en suis rendu compte vers 5-6 ans, à peu près 4-5-6 ans, que, en fait, il y avait un truc qui ne collait pas, c'est que j'étais petit garçon, et en fait, j'avais plus de copines, et je m'entendais bien avec les copines et pas avec les garçons, et c'est là que j'ai commencé à me poser la question, mais bon, on ne parlait pas de la transidentité ni quoi que ce soit. Et en fait, j'ai tenté de vivre une bonne partie de ma vie sans savoir. En plus, je savais, je ressentais que j'étais une fille, mais j'étais un garçon. Il n'y avait aucune explication. Et il y a eu vraiment des moments très très difficiles, que ce soit à l'adolescence, les hormones se réveillent, c'est le cas de le dire. Et puis plus tard dans la vie, heureusement, j'avais tellement...
Céline, pardon, vous allez un peu vite, mais même tout petit, vous racontez dans le livre que quand vous faites du catéchisme, vous priez pour que Jésus fasse de vous une fille.
Exactement, j'étais dans une famille très catho, donc le soir, en effet, il fallait faire sa prière, et moi, la seule chose que je demandais, en fait, je disais « Jésus, je veux devenir une fille ». Bon, ça n'a jamais marché, heureusement qu'il y a eu la médecine après, mais... C'est vrai que c'était vraiment, il y avait quelque chose, je sentais qu'il collait pas, si bien que d'ailleurs je suis devenu totalement, hyper timide, j'ai dû attendre des années avant d'oser pousser la porte d'un magasin parce que j'avais peur des gens, je me sentais
mal. Du coup, vous aviez une espèce de vie intime cachée, vous racontez qu'à l'adolescence, vous travestissiez avec des vêtements de filles chez vos grands-parents.
Exactement.
En cachette, en fait.
J'avais un peu la chance, j'adorais la photo, donc j'avais construit mon petit labo photo chez mes grands-parents, et comme en effet, à l'époque, on pouvait pas rentrer dans un labo photo, sinon les photos étaient ratées. Donc, j'étais toute seule, et là, je piquais des affaires à ma mère, et je me mettais en fille. J'aime pas trop dire en fille, parce qu'en effet, ça fait ce travestissement. Et pour moi, c'est pas du travestissement. Pour moi, c'était...
vous êtes depuis le début.
Voilà, je me sentais être moi-même à ce moment-là. Et c'est ça, c'est ce que j'ai aussi appelé mes sas de survie. Alors après, quand j'étais d'ailleurs au lycée, ça qui était génial, c'est qu'il y avait plein de devoirs à faire. Et comme mes parents partaient le dimanche à la campagne, j'avais une bonne excuse pour pas les accompagner. Et puis, sur mon bureau, je piquais des affaires à ma mère et j'étais fille le temps qu'ils étaient à la campagne. Et puis, après, malheureusement, c'est un peu comme Cendrillon. Je savais que vers 18h, 18h30, ils allaient rentrer.
Donc, hop.
Donc, Cendrillon, pauvre, belle robe et tout. Fallait que je reprenne les atours d'un garçon. Et ça, c'était dur. Mais au moins, j'avais une espèce, en effet, de sas de survie.
Alors, vous parlez évidemment de votre vie professionnelle, parce que, encore une fois, la transformation physique s'est faite il n'y a pas très longtemps, après votre départ à la retraite. Vous avez été journaliste, vous avez occupé des fonctions importantes à Radio France. Vous en avez notamment été à l'époque le médiateur. Est-ce que vous en parliez autour de vous ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez porté tout seul pendant tant d'années, pendant toute une vie pratiquement ?
En fait, oui, je l'ai porté tout seul parce que j'ai jamais osé même en parler à ma femme, à mes enfants, jusqu'à l'internet, en fait. C'est Internet et Google qui m'ont révélé, parce que je n'osais pas en parler. Pour moi, je ne comprenais pas ce que j'avais. Il n'y avait pas de livre, j'avais fait des recherches, je n'ai jamais trouvé un livre sur cette transidentité. Donc, en fait, grâce à Internet, grâce à Google, c'est là que j'ai enfin compris que j'étais transgenre, que c'était la transidentité. Après, j'ai compris que c'était ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Et là, j'ai réussi à mettre un nom sur quelque chose. Et là, ça m'a déjà beaucoup aidé. Et puis après, évidemment, on vieillit, j'ai passé la cinquantaine, c'est là qu'on est plus proche de sa fin que son début, et j'avais pas envie de mourir garçon, homme, et ça je me suis dit, il faut que j'avance. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je peux plus continuer, et que à ce moment-là, j'ai commencé à le révéler.
Alors, faut que j'avance, c'est facile à dire. Dans les faits, ça se traduit par des étapes à franchir. Vous le disiez, vous êtes marié, vous êtes toujours marié. Vous racontez d'ailleurs la scène où vous en parlez à votre femme. Elle veut vous acheter des chaussettes de contention après une opération. Et vous lui répondez, je préférerais des bas. Pour moi, c'est plus féminin. Je te l'avoue, ça va certainement être brutal. Mais je me suis toujours senti femme. Effectivement, c'est du brutal. Comment elle réagit à ce moment-là ?
Bah pour elle, c'est l'impression que tout s'effondre.
C'est
en
un
fait.
Monde qui s'effondre.
C'est un monde qui s'effondre complètement. Et sa première réaction, c'est de dire, je la comprends, parce qu'en plus, je m'étais mis à sa place, je m'étais dit, mais si c'est elle qui devait m'annoncer que, en fait, elle se sentait homme.
Vous lui en avez jamais parlé avant, ni de votre ressenti, ni de ce...
Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment gardé au fond de moi. Je ne savais pas comment l'aborder. Et là, donc, ben, pour en venir à cette fameuse soirée, donc, c'est là que je lui ai tout raconté. On a discuté pendant, on va dire, presque des heures. Elle, c'est vrai que c'était...
Mais elle n'a pas eu le sentiment qu'elle avait été trompée pendant toutes ces années?
Ben si, parce qu'elle m'a dit très clairement, tu m'as trahi. Alors, je ne l'ai pas trahi avec une autre, hein, je l'ai trahi avec moi-même. Tu m'as menti. Pour moi, ce n'est pas vraiment un mensonge, c'était un secret que je n'arrivais pas... qui n'arrivait pas à sortir de moi, en fait. C'est ça qui est dur, et je suis pas la seule à le vivre, hein. On est nombreuses. En fait, on sait pas vraiment comment l'expliquer, et on sait pas comment en parler. Alors après, quand on a quand même l'explication, moi j'avoue qu'il y a un livre, c'est le livre d'Olivia Chaumont, qui est sorti en 2013. C'est quasiment le premier livre qui racontait justement sa transition.
Et vous racontez que ce livre vous a beaucoup aidé.
Ah, moi ça m'a énormément marqué.
Ça vous a débloqué, en fait.
Et ça m'a complètement débloqué. Et je l'ai rencontré d'ailleurs il y a 15 jours, juste avant le confinement. J'avoue que ça a été un moment émouvant de rencontrer cette personne qui était une architecte, qui avait vécu quelques années avant moi tout cela, et ça m'a vraiment marqué, ça m'a donné en fait le top départ quasiment pour me lancer.
On ressent à la fois quelque chose d'inexorable, d'inévitable, d'évident dans votre vie, et une violence dans le récit. Vous racontez une tentative de suicide, et c'est Christine, votre épouse, qui vous sauve. Ce jour-là, vous êtes en vacances au Costa Rica, hein, si je me souviens.
Alors, c'est la première tentative.
Ouais. Il y en a plusieurs.
Ouais.
Et en fait, aujourd'hui, Béatrice, vous êtes mariée, vous êtes papa, puisque vous avez eu deux garçons, et vous êtes grand-mère, puisque vous avez eu deux petits-enfants. Alors cette phrase, elle peut paraître un peu incongrue. Vous comprenez que ça trouble ou pas, que ce soit pas forcément facile à entendre, à accepter pour les gens qui ont des cases, des schémas classiques? C'est difficile à faire entendre?
Alors c'est vraiment difficile à faire entendre. Alors, en fait, j'ai un garçon et une fille, hein, j'adore, et qui m'ont vraiment soutenu. Mais c'est vraiment le truc marquant, enfin qui m'a marqué, notamment quand j'ai fait mes coming out, notamment auprès d'amis, que ce soit d'ailleurs mes amis de Radio France ou mes amis plus personnels en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai constaté et qui est incroyable. Bon, alors vous êtes un homme, peut-être que ça vous a aussi beaucoup étonné. C'est en fait, j'ai constaté que chez les hommes, ma situation était difficilement audible en fait. Alors personne ne m'a rejeté, hein, j'ai des amis super.
Vous avez gardé tous vos potes, tous vos amis,
ouais,
tous vos proches?
Ouais, franchement c'est vraiment super, je n'ai perdu personne. Mais il n'empêche que chez les hommes, ça reste d'ailleurs un peu compliqué, le fait de ne pas comprendre cette transidentité. Et j'en ai parlé avec ma psychologue. Et c'est vrai qu'en fait, le problème des hommes, je suis désolé hein, Thomas, c'est le problème un peu du syndrome de castration.
Ouais.
Et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre, et ils ont du mal à comprendre qu'un homme, donc sexe fort, hein, entre guillemets, puisse accepter d'être en quelque sorte castré pour devenir une femme. Mais c'est souvent inconscient, en fait, de quelqu'un qui, en effet, n'a pas la virilité. Enfin, je perds ma virilité, etc., etc. Moi, j'en suis heureuse. Et pour beaucoup d'hommes, c'est vraiment très, très compliqué.
Et encore une fois, même si physiquement vous ne l'étiez pas, vous êtes une femme depuis le premier jour de votre vie. C'est comme ça que vous l'avez ressenti.
Toujours ressenti comme ça.
On va en venir à ce 13 février 2019. C'est le jour où vous devenez physiquement ce que vous êtes.
Une nouvelle naissance, en fait.
Ouais. Vous vous réveillez, vous venez de vous faire opérer. Une infirmière se penche sur vous et elle vous demande, madame, comment ça va? Quels souvenirs vous gardez de ce moment-là?
Ah, pour moi, c'était... j'ai eu les larmes aux yeux. Pour moi, c'était extraordinaire. C'était... voilà, pour moi, c'était vraiment le premier moment où j'étais vraiment femme. C'était ma naissance, ma renaissance, en quelque sorte.
C'est une libération?
Ah, une libération extraordinaire, même si ça faisait mal. Mais non, c'était vraiment une libération. Là, pour moi, j'étais... Alors après, je me suis... Bon, vous avez vu dans le livre, c'était pas un long fleuve tranquille. Hein. Après, on se pose plein de questions. Suis-je légitime? Suis-je une vraie femme ou pas? Mais à cet instant-là, pour moi, j'étais... Enfin, la femme que j'aurais dû être dès ma naissance.
Et pourquoi vous avez attendu tellement de temps? C'est le regard des autres qui vous gênait? Ouais. C'est le regard de la société?
Oui, tout à l'heure, vous parliez de Radio France, là où j'ai travaillé. Et c'est vrai que je ne me voyais pas... en plus, c'est vrai que j'avais des postes à responsabilité. Donc, quasiment tout le monde me connaissait. Et je ne me voyais pas, notamment quand j'étais médiateur, du jour au lendemain, devenir médiatrice en annonçant à tout le monde, Bruno s'appelle désormais Béatrice. Alors qu'aujourd'hui, dans pas mal de sociétés, Et c'est là que je me dis, bon, à deux ans près, j'aurais pu continuer de travailler, parce que, en plus, c'est un boulot que j'adorais. Enfin, quand on est journaliste, c'est vraiment, enfin, vous le savez, c'est un des plus
beaux. Vous auriez préféré être journaliste femme, en fait.
Ah oui, oui. Et c'est pour ça que là, je suis heureuse de pouvoir continuer, notamment à donner des cours à l'école de journalisme de Sciences Po, en tant que journaliste femme. C'est vraiment ce qui m'a manqué le plus toute ma vie. Et j'ai une admiration pour les femmes journalistes, mères de famille, en me disant, c'est franchement extraordinaire. Qu'est-ce que j'aurais voulu être comme elles?
J'ai une petite question qui va peut-être vous paraître totalement anecdotique, mais je voudrais savoir si l'administration joue le jeu. Aujourd'hui, votre numéro de sécu, il commence par 1 ou par 2?
Par 2.
Ah, donc ça a été modifié.
Mais ça met du temps, hein.
Ouais.
Ah, ça aussi, c'était quelque chose d'hyper compliqué. Franchement, c'était vraiment, ouais, compliqué, parce que, au total, je crois que j'ai mis 1 an et demi jusqu'au dernier moment où là, j'ai vraiment tous mes papiers, tout véritablement qui correspondait à Béatrice de Nasse. Et honnêtement, ça provoque des quantités de... Bah, par exemple, la carte vitale. Surtout que c'était au moment où j'ai eu l'opération, enfin, différentes interventions et autres. Et c'est ce qu'on appelle le mégenrage, et qui est souvent c'est une forme d'acte de transphobie, en fait. Quand on se retrouve dans une salle d'attente, alors c'est vrai que la carte vitale, c'est encore, en effet, avec 1-1, et c'était encore Bruno. Et j'avais beau signaler régulièrement à l'accueil, si, quand on m'appellera, on peut dire madame ou Béatrice de Nasse. Devant tout le monde, monsieur de Nasse. Et c'est là qu'on a les jambes qui flageolent et qu'on se dit, oh là 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 là, c'est franchement, enfin, tout le monde nous regarde, et là le regard des autres, pour le coup, il est vraiment très dur.
Quel souvenir vous gardez de Bruno?
honnêtement, j'ai quand même pas eu une vie catastrophique, j'ai eu une vraie souffrance, honnêtement. Bon, ça dit, il y a des tas de gens qui ont des souffrances qui sont certainement peut-être encore plus fortes, mais c'est une vraie souffrance quand on n'est pas dans le bon corps, en fait. Ça, c'est vraiment terrible. D'un autre côté, c'est vrai que j'ai eu une famille formidable, c'est le cas de le dire. J'ai eu un métier extraordinaire, enrichissant, valorisant, que j'adore toujours. Donc, honnêtement, oui, mais j'aurais tellement voulu, en effet, être... Mais comme me dit, alors ça m'a beaucoup touché, comme m'a dit ma fille, oui, mais t'imagines, si plus tôt t'avais fait ta transition, peut-être que je serais jamais né. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup marqué, et je me suis dit, c'est vrai. Donc voilà, ne réécrivons pas l'histoire, contentons-nous de ce qui se passe.
Merci d'être venu nous la raconter, cette histoire.
Merci,
merci Béatrice de Nasse. Votre livre « Ce corps n'était pas le mien, histoire d'une transition tant attendue » sortira demain chez First Edition. C'est mon côté américain. Et c'est un livre utile parce que ça nous bouscule un peu, et en même temps, ça nous fait réfléchir. Merci à vous d'être venu.
Merci encore.
Dans un instant, la culture de l'actu avec notre Bridget Jones, à nous Julia Molcou, qui célèbre, à sa manière forcément, la Journée internationale des célibataires.
Thomas Soto, RTL Soir.